Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
On entend du matin au soir et du soir au matin le fait que l'écologie serait la cause de tous les problèmes. Alors l'écologie, c'est la responsable de la crise économique et sociale, c'est la responsable de la flambée des prix de l'énergie, c'est la responsable de la crise que vit le monde agricole, c'est la cause de tous les maux.
Le constat à rien désabusé de Marie Toussaint, interrogée en fin de semaine dernière sur France Info, dans l'émission Demain l'Europe. La candidate écologiste aux européennes dénonce l'activisme des lobbies qui rendent l'écologie responsable de tous les maux. Il faut dire que dans les sondages pour les prochaines européennes, le Parti Vert fait grise mine. Il pointe entre 6 et 8,5% selon les sources, loin du score enregistré en 2019 par Yannick Jadot, près de 13,5% des voix en troisième position. La malédiction des années en 4 jouera-t-elle encore cette année ? Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos, un programme disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.
Au sud de la Belgique, il y a le nord de la France. Et toujours à propos de phénomènes climatiques et d'inondations, on sait que le nord Pas-de-Calais, chez nos voisins, a subi pour la deuxième fois en quelques semaines d'importantes montées des niveaux d'eau. 300 personnes ont même dû être évacuées ces dernières heures et on n'attend pas d'amélioration avant ce week-end.
Des inondations dans le nord de la France évoquées il y a 3 mois sur la RTBF. Une deuxième vague. Les effets du réchauffement climatique se font sentir chaque année un peu plus entre épisodes de sécheresse dans le sud et pluies diluviennes dans le nord, avec des coûts astronomiques pour les assurances. Mais l'environnement est loin d'être une priorité pour les électeurs à l'approche des européennes qui se tiendront en France le 9 juin. En novembre dernier, l'environnement n'apparaissait qu'en 5e position dans les enjeux qui compteront le plus au moment de voter aux européennes, selon le sondage Eurotrack Opinionway réalisé par les Échos et Radio Classique. 20 points derrière le pouvoir d'achat, la hausse des prix, l'immigration et la sécurité, des thèmes qui favorisent notamment l'extrême droite. Le RN reste en tête dans les sondages quand Europe Écologie Les Verts stagne à 8%. Habituellement, les européennes sont pourtant avec les municipales l'un des scrutins où les Verts font leur meilleur score. Pourquoi ? C'est la question que j'ai posée à Adrien Valla, journaliste aux Échos.
D'abord parce que les problèmes environnementaux, notamment le dérèglement climatique et la pollution, ils ont en principe pas de frontières. Donc leur résolution peut difficilement passer par l'échelon national seul. Et la politique environnementale de Bruxelles monte en puissance en ce moment, en témoignent notamment les ambitions du pacte vert européen. Ensuite, parce que les écologistes sont positionnés comme une force ouvertement pro-européenne. C'est d'ailleurs dans leur nom, Europe, Écologie, Les Verts. Et puis il y a bien sûr une explication plus technique liée à la nature du système de votation. Aux européennes, on vote à la proportionnelle. Il n'y a pas de deuxième tour et on vote pour la liste qui nous convainc le plus. Et beaucoup moins par stratégie, comme au présidentiel où on vote en gros, souvent pour celui qui a des chances de gagner et qui nous déplaît le moins.
Oui, c'est ce qu'on appelle le vote utile. Au municipal, les enjeux locaux peuvent aussi prendre le relais des enjeux nationaux. On se souvient d'ailleurs qu'en 2020, les écologistes avaient créé la surprise en remportant près de 14% des voix avec des victoires de prestige à Lyon, Tours, Grenoble, Strasbourg ou Bordeaux. Mais 4 ans plus tard, Europe Écologie s'est-il implanté dans le cœur des électeurs ? On y verra sans doute un peu plus clair dans 2 mois. La liste du parti Europe Écologie Les Verts sera conduite par Marie Toussaint. C'est pas la plus voyante ni la plus médiatique de ce parti. Qui est-elle ?
Marie Toussaint, c'est une juriste de 36 ans. Elle a rejoint Les Verts à tout juste 18 ans. Donc ça fait quand même un moment qu'elle est dans les arcanes du parti. Elle s'est fait connaître en cofondant l'ONG Notre Affaire à Tous, dont le grand coup d'éclat, je ne sais pas si vous en souvenez, a été l'affaire du siècle. C'était une campagne pour poursuivre l'État en justice pour inaction climatique, avec une pétition signée quand même par 2,3 millions de Français, et qui a, au final, réussi à faire condamner l'État. Elle a surpris pas mal de monde en étant élue tête de liste pour les européennes l'été dernier. Depuis, elle mène une campagne plutôt iconoclaste, avec notamment sa boutithérapie, sa session de déhanchement lors de son premier meeting qui a beaucoup fait jaser.
Adrien a attisé ma curiosité avec la boutithérapie. Je suis allé voir les images retrouvées sur TikTok notamment, des mouvements de fessiers qui pouvaient donner l'impression d'être dans un clip de rap. N'étaient les mots « grippe aviaire » ou « poulet » prononcés par les danseuses. Mais Adrien m'a expliqué que ce happening étonnant était aussi l'expression de la colère des femmes victimes d'agressions sexuelles et de viols. Maïmouna Koulibaly, à l'origine de cette thérapie par la danse, a voulu en faire un objet politique pour permettre aux femmes de se réapproprier l'espace public. Marie Toussaint va en tout cas essayer de faire bouger les lignes. Alors, avec ou sans le bassin, dans sa liste, il y a plusieurs députés européens déjà en place, mais il y a aussi de nouveaux visages, dont un qui a connu son heure de gloire en 2018, c'est la gilet jaune Priscilla Ludowski. Pourquoi elle ?
Priscilla Ludowski et Marie Toussaint, elles se sont rencontrées pendant le mouvement des gilets jaunes. Elles ont même écrit un livre ensemble, dans lequel elles militent pour une synergie entre la lutte pour le climat et la lutte sociale. En somme, le reflet du slogan, je ne sais pas si vous le connaissez, « Fin du monde, fin du mois, même combat ». Pour les élections, Priscilla Ludowski est en 9e place sur la liste, donc elle est en position éligible.
Tous les mois, les échos associés à Radio Classique, à Vae Solis et à Opinionway sondent les intentions de vote en vue des européennes. En mars, le RN, suivi de la majorité présidentielle, faisait la course en tête. Europe Écologie Les Verts était à 8%, très loin de son score de 2019. Comment est-ce que c'est vécu à l'intérieur du parti ?
À l'intérieur du parti, on veut croire que la campagne est encore longue. On répète qu'il ne faut pas trop se fier au sondage. Et que Yannick Jadot, qui avait fait un très bon score aux européennes de 2019, plus de 13% des voix, était à l'époque, lui aussi, à la traîne dans les baromètres d'opinion. J'ai été vérifié, et c'est vrai. Fin mars 2019, il était seulement à 7%. Dans les tout derniers sondages avant le vote en mai, il était à 9%.
Alors bien sûr, ce sont les vérités du mois de mars. Rendez-vous est pris le 22 avril sur leséchos.fr pour la livraison d'avril de ce sondage Opinionway. Le monde en morceaux, le lip-dub d'Europe Écologie en 2009 pour les élections européennes. 15 ans plus tard, c'est le portefeuille en morceaux qui semble obnubiler les Français et les Européens à moins de 2 mois des élections européennes. Bonjour Marie Bellan.
Bonjour Pierrick.
Journaliste au service France des Échos, spécialiste de l'environnement avec Anne Fetz, le pouvoir d'achat et la hausse des prix sont en tête des enjeux pour ces élections européennes. Suivis par l'immigration, la protection sociale et la sécurité, l'environnement arrive derrière. Dans une analyse pour les Échos en janvier, vous parliez, Marie, de l'écologie, sujet tabou des européennes. Pourquoi ?
Le sujet, je dirais tabou, il est surtout devenu au fil des semaines, là, surtout très clivant. Et pour certains observateurs, aujourd'hui, il est presque plus clivant dans les instances européennes de parler d'écologie que d'immigration. Ouais, on voit à quel point on en est arrivé. Alors pourquoi c'est clivant ? Parce que c'est un sujet qui touche à l'organisation de la société, de l'économie, mais à nos comportements aussi. Hein. C'est un sujet de la vie quotidienne. Il s'agit de se déplacer, se nourrir. Donc c'est normal que ce soit clivant en réalité, d'une part. Et par ailleurs, si le constat du dérèglement climatique, je pense, est à peu près partagé par un grand nombre de personnes, je mets de côté les climato-sceptiques qui existent toujours, mais qui sont quand même de moins en moins nombreux, ce qui est beaucoup moins consensuel en revanche, c'est la façon dont on va gérer ce dérèglement climatique et les solutions qu'il faut mettre en place. Là, on rentre sur un terrain qui n'est plus du tout consensuel. Et c'est justement cette partie-là que les partis de droite, notamment d'extrême droite, ont réussi à utiliser en faisant de l'écologie, en quelque sorte, le nouveau bouc émissaire. Et je le disais, avant, c'était les immigrés. Mais maintenant, c'est l'écologie. Alors, ça s'est vu, je trouve, de manière très flagrante pendant la crise agricole qui a agité tout le continent européen. C'était une crise très visible, parce qu'elle a eu lieu dans plein de pays européens, en même temps, avec des manifestations très nombreuses, très longues aussi. Ça a duré plusieurs semaines. De ce point de vue-là, c'était assez exceptionnel. Et On a fait un petit peu de l'écologie dans la cause de tous les maux de l'agriculture. Le manque de compétitivité, c'est la faute de l'écologie. La complexité administrative, c'est toute la paperasse que nous demande la PAC et toutes les orientations écologiques qu'on a voulu lui donner. Alors, bon, il y a du vrai là-dedans, puisque les normes environnementales, c'est vrai qu'elles créent des obligations supplémentaires, donc de la complexité. La mise en jachère des terres dont on a beaucoup parlé, c'est vrai que ça paraît un peu incongru. Demander à quelqu'un de laisser de côté son outil productif pendant plusieurs mois ou voire une année entière, ça paraît un peu bizarre. Mais parce qu'on n'explique pas, je crois, et c'est ça un des grands défauts aussi de l'écologie politique, quel est le projet qu'il y a derrière, et notamment sur l'agriculture. Est-ce qu'on veut une agriculture plus intensive, davantage exportatrice? Ou est-ce qu'on veut une agriculture où les rendements seront peut-être un petit peu plus faibles au départ, mais avec un respect, une régénération des sols? Tout cela n'est pas dit de manière claire, en tout cas, et cohérente, et on manque d'une vision politique, en quelque sorte.
Oui, ce qui fait qu'on a pu voir émerger ces mots d'écologie punitive, même de dictature verte, dont vous parlez dans votre analyse pour les Échos. On a parlé de cette crise agricole, effectivement, qui a occupé le devant de la scène. Les télévisions en continu, notamment, on nous a montré, on n'a jamais vu autant de tracteurs, j'ai envie de dire, encore plus que lors des salons de l'agriculture. Est-ce que cette crise agricole peut avoir un impact, notamment sur les intentions de vote pour les écologistes ou contre les écologistes aux prochaines européennes?
Alors, je pense que oui, il y aura un impact parce que ça a été très visible, ça a marqué les esprits et d'ailleurs, tous les partis, enfin, je veux dire, on l'a remarqué, hein, il n'y a pas que les seuls partis écologiques, mais tout le Parlement européen, la Commission a été percutée par cette crise de manière très forte et c'est ce qui les a fait reculer sur une grande partie des réformes du Pacte vert. Il faut se rappeler quand même que ce qu'on appelle aussi le Green New Deal ou le Green Deal, ça dépend, enfin bon, disons Pacte vert en bon français, a été quand même un des points centraux de la mandature de von der Leyen au départ, hein, au début de sa mandature en 2019, avec des textes très ambitieux qui ont été votés. Je rappelle quand même la fin de la vente des voitures thermiques en 2035, c'est pas rien. Donc c'était vraiment des mesures très importantes. Il n'y a pas que ça, je cite peut-être la plus visible et la plus marquante. Donc voilà, du coup, il y a eu un tournant. Alors, on se dit, oui, c'est la crise agricole, parce que c'est ce qu'il y a de plus près, mais je pense qu'il faut le faire remonter un petit peu avant quand même, et peut-être au déclenchement de la guerre en Ukraine, et peut-être même encore avant aux conséquences de la crise du Covid qui ont créé bon, voilà, un contexte inflationniste avec une montée des prix très forte en Europe. Alors, en France, on s'en est un peu moins rendu compte parce qu'on a eu le bouclier énergétique, enfin, des aides publiques très importantes, ce qui fait que ça a été un petit peu moins indolore. Mais en Allemagne, c'était très différent. Au Royaume-Uni, qui n'est plus en Europe, mais tout de même, enfin, plus dans l'Union européenne. Aux Pays-Bas aussi, ça a été très fort. Et donc, je pense que ça a vraiment marqué les esprits, marqué les ménages les plus modestes parce qu'on a eu une conjonction d'une poussée très forte des prix et en même temps, une politique qui va vers des mesures donc de transition écologique qui disent bah, « écoutez, il va falloir manger bio, ah ben, mais c'est plus cher. Il va falloir changer sa chaudière à gaz pour une pompe à chaleur. Ah oui, mais ça coûte de l'argent. Il va falloir acheter une voiture électrique. Ah oui, mais ça, désolé, mais c'est plus cher à l'achat en tout cas qu'une voiture thermique. Sur le long terme, c'est un peu différent. » Mais tout ça pour dire que dans un contexte où déjà les prix augmentent, on vous dit en plus, eh ben, il va falloir que vous vous équipez de nouvelles voitures, nouveaux équipements de chauffage. On comprend qu'il y a une tension quand même qui soit forte pour les ménages modestes, mais aussi pour les classes moyennes. C'est pas que les ménages modestes. Ce qui explique, du coup, je pense, les intentions de vote aujourd'hui assez fortes pour l'extrême droite, parce que l'extrême droite a su parfaitement utiliser à son profit cette tension sur les prix. Et donc, comme souvent, c'est finalement une crise du pouvoir d'achat qui, on essaie de trouver un coupable. Bon, alors parfois, je vous dis, hein, parfois c'est les immigrés les coupables, c'est eux qui sont responsables du chômage, par exemple dans les années 80-90. Ben, aujourd'hui, c'est ben, qui est responsable de la hausse des prix? C'est l'écologie. Alors, l'écologie n'est pas directement responsable de l'inflation, mais la transition écologique va coûter cher et on ne le dit pas suffisamment explicitement. En tout cas, on met un peu sous le tapis ces problèmes de financement de la transition écologique.
La transition écologique va coûter cher, mais le dérèglement climatique risque de coûter encore plus cher. Hein.
L'inaction climatique coûte effectivement beaucoup plus cher que les mesures qu'on pourrait prendre maintenant.
La nouvelle Union populaire, écologique et sociale, est fière d'avoir rendu possible son programme. Elle est fière de l'œuvre accomplie. Elle regarde le peuple français avec la tranquillité du travail accompli et d'une perspective radieuse qui se présente à lui. Vive la République, vive la France.
Va voter NUPES, le clip de campagne pour les législatives. C'était en 2022. Deux ans plus tard, la gauche et les écolos arrivent en ordre dispersé devant les électeurs pour les européennes de juin. Ensemble, ils pèsent toutefois autant que le RN, autour de 27%. Mais lequel de ces partis de gauche ou écologistes terminera devant? On le disait, Europe Écologie reste stable avec autour de 8% des intentions de vote. Derrière la liste PS, place publique, Adrien, ce sera le match des européennes à gauche?
Alors, je crois pas. C'est vrai que les deux listes sont sur le papier assez proches en termes de programme. Elles prêchent toutes les deux pour plus d'Europe, pour un saut fédéral, pour une réindustrialisation écologique et pour plus de justice sociale. Mais je pense que la principale question à gauche, ce sera celle du rapport de force au sortir du scrutin, notamment vis-à-vis d'LFI. Après les très bons scores des insoumis aux présidentielles et aux législatives, ils ont clairement pris le leadership au sein de la NUPES. Si la liste portée par Manon Aubry ne termine pas première, il pourrait y avoir alors un rééquilibrage entre les trois partis, ce qui pourrait changer le visage d'une alliance des gauches et des compromis qui seront faits.
Les européennes changeront-elles les rapports de force à gauche? Ce sera aussi l'un des enjeux du scrutin du 9 juin prochain. Quel score feront les Verts après les 13,5% de Yannick Jadot? Il paraît que les années en 4 ne sont pas très favorables aux Verts. C'est ce que j'ai entendu récemment sur France Info dans le brief politique d'Aurélie Herbemont. Effectivement, depuis 1994, les listes vertes font en moyenne un peu plus de 13% les années en 9 contre un peu plus de 7% les années en 4.
Pas brillante votre affaire. Non, cette année ça n'a pas été ça. L'année dernière non plus. Non, l'année dernière non plus.
Les Verts en France n'apparaissent donc pas en position de force pour les européennes, mais ce sont des sondages et il faudra attendre la vérité des urnes pour faire le bilan de ces élections en France, mais aussi en Europe. Bonjour Vincent Collen.
Bonjour Pierrick.
Chef adjoint du service international des Échos. D'abord, quel est aujourd'hui le poids des Verts au Parlement européen?
Alors, dans ce Parlement européen qui a été élu il y a 5 ans, donc en 2019, il est particulièrement important. Les Verts sont la quatrième formation politique dans l'hémicycle à Strasbourg, derrière la droite traditionnelle, le PPE, les sociodémocrates, SED, et les centristes de Renew qui comprennent les macronistes. Ils ont 72 députés dans l'hémicycle de Strasbourg et c'est le niveau le plus élevé qu'ils aient eu de leur histoire. Ils ont fait un très bon résultat aux élections européennes de 2019.
Est-ce qu'ils ont pu peser sur la politique européenne ces dernières années?
Oui, indéniablement, malgré leur poids relativement limité. Hein, on l'a dit, ce n'est que la quatrième formation. L'agenda politique de la commission sortante, qui était au pouvoir donc de 2019 à 2024, a fait voter énormément de textes en faveur de l'écologie et de lutte contre le changement climatique. Bien que la commission soit dirigée par Ursula von der Leyen, qui n'est pas du tout issue des écologistes, bien sûr, elle vient de la CDU à la droite allemande, mais les textes qui ont été votés pendant ces 5 années sont les plus verts de l'histoire de l'Union européenne. Il y a un groupe de textes qu'on appelle le Pacte vert qui a été voté, des textes vraiment très novateurs dans ce domaine. Et on peut penser que c'est grâce à la poussée des Verts au Parlement européen en 2019 que cet agenda a pu être poussé.
Quelles sont les places fortes de l'écologie en Europe?
Alors, c'est très concentré. Comme vous le savez, en Europe, il y a des grands pays, il y a aussi énormément de petits pays, voire de très petits pays. Et donc, forcément, le poids des grands pays est dominant. Si on regarde le groupe des Verts aujourd'hui au Parlement européen, c'est l'Allemagne et la France qui constituent l'essentiel des troupes. Dans d'autres pays, les Verts peuvent être forts, par exemple en Autriche ou aux Pays-Bas ou dans certains pays scandinaves, mais étant donné la taille de ces pays, numériquement, ils pèsent beaucoup moins dans le Parlement de Strasbourg.
Und der Habeck, hallo.
Wir sind die Grünen und sehen super aus. Die Schnute hier will bald ins Kanzlerhaus.
Oder die.
Nous étions les Verts, la chanson parodique de l'émission Extra 3 en Allemagne. On le disait en France, ELV ne décolle pas dans les sondages en vue des européennes 2024, mais bon, il ne s'effondre pas non plus. Vincent, l'Allemagne, c'est aussi une place forte de l'écologie politique. Comment se présentent ces européennes pour les Grünen, les Verts allemands?
Alors les Verts allemands, ils souffrent beaucoup. Il y a un effet de base, bien sûr, qui joue, c'est-à-dire qu'ils avaient eu un très bon score en 2019. Donc la comparaison va être difficile. Les sondages prédisent un assez net déclin pour les Verts allemands. Ce n'est pas non plus un effondrement total. Ils pâtissent de leur position dans la coalition qui est au pouvoir à Berlin depuis 2021. Donc l'usure du pouvoir, les problèmes internes de cette coalition entre les Verts, les centristes et les socialistes allemands. Donc il y a quand même un net déclin annoncé pour les Grünen allemands lors du scrutin du 9 juin.
Voilà, la France, l'Allemagne, qui sont les deux pays forts, vous le disiez, de l'écologie en Europe. Quelles sont les projections dans les autres pays? Est-ce que le vote écologiste peut progresser ou au contraire, va-t-il aussi être sur le reculoir?
Ce que montrent les sondages, c'est surtout une stagnation à un niveau très bas pour certains pays. C'est assez étonnant quand on ne connaît pas bien la vie politique dans ces pays. Mais en Italie, par exemple, il n'y a que 3 eurodéputés verts. Même chose en Espagne, 3 députés. Pour des grands pays comme ça, c'est très peu. En Pologne, un seul. Dans la plupart des pays d'Europe centrale et orientale, les Verts sont quasiment absents de la scène politique et les sondages ne prédisent pas vraiment de percée. En Italie et en Espagne, par exemple, ça devrait rester à un niveau très bas. Les Verts espèrent une percée dans certains pays d'Europe de l'Est où ils étaient totalement absents, mais ça resterait quand même des niveaux assez bas. Et puis encore une fois, ce sont des tout petits pays, donc ça n'est pas susceptible de changer la donne vraiment à Strasbourg.
Vincent, début février, vous étiez au congrès du Parti Vert européen à Lyon, chez Grégory Doucet, le maire écolo de la troisième ville de France. Quelle était l'ambiance ?
Alors l'ambiance était festive, hein, comme toujours dans les congrès des partis politiques et peut-être particulièrement des Verts. Les militants sont jeunes, ils sont enthousiastes, ils sont très très mobilisés sur les thèmes de l'environnement. Néanmoins, ils ne peuvent pas ignorer les sondages, donc on sentait une forte inquiétude face au déclin annoncé. Ils essayent du coup de remobiliser leur électorat, paradoxalement, grâce à ces sondages, en leur disant « attention, si vous n'allez pas voter, on va revenir en arrière sur tout ce qui a été fait ces 5 dernières années, le pacte vert est menacé ». C'est ça la ligne qui est mise en avant pour cette campagne électorale dans tous les pays européens par les Verts. C'est vraiment difficile pour eux, notamment parce qu'ils partent d'une base très élevée. Encore une fois, ils ont eu un résultat record en 2019. Ça sera probablement impossible de faire aussi bien cette année.
Il y avait aussi cette notion de justice sociale. C'était un point, on sait que c'est une des préoccupations importantes. Hein. Là aussi, on le voit notamment en France avec toutes les questions de pouvoir d'achat et d'inflation. C'est un thème aussi qu'ils ont défendu lors de ce congrès.
Oui, c'était central dans leur programme et dans leur discours au moment où le congrès se tenait à Lyon, il y avait des manifestations d'agriculteurs partout en Europe, donc ils ne peuvent pas ignorer le retour de bâton de certaines mesures écologistes, que ce soit sur les agriculteurs par exemple, mais plus largement pour les ménages et le pouvoir d'achat. Ça va être ça leur grande difficulté cette année, c'est de montrer que l'écologie n'est pas incompatible avec la justice sociale, le pouvoir d'achat. Et c'est probablement la principale difficulté de cette campagne pour les Verts cette année.
Il y a plus d'inquiétudes économiques qu'en 2019. Les mots sont de Bas Eickhout, député vert néerlandais à Bruxelles. Le programme adopté au Congrès de Lyon en tient compte. Il propose un pacte vert et social européen. Mais cela sera-t-il suffisant pour inverser la tendance? En 2019, on avait le vent dans le dos. Aujourd'hui, on l'a vraiment de face, reconnaît Marie Toussaint. C'est vrai qu'en 2019, la mobilisation des jeunes, l'essor de Greta Thunberg ou les marches pour le climat avait fait émerger une vague verte. Cette année, Vincent, on craint plutôt une vague brune.
C'est en tout cas ce que laissent prédire les sondages. Alors, ce n'est pas une vague uniforme. La situation n'est pas la même dans tous les pays. Mais globalement, si on prend le Parlement européen dans son ensemble, les Verts, par exemple, seraient relégués de la 4e à la 6e place. Ils perdraient une vingtaine d'eurodéputés. Et il serait dépassé par les deux groupes de la droite radicale, celui qui comprend le Rassemblement national français, qui s'appelle ID, et l'autre, celui des conservateurs et réformistes européens, qui comprend notamment les Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni en Italie, ou le PiS polonais. Et ces deux groupes obtiendraient, si l'on en croit les sondages, environ 80 députés chacun, donc ils seraient l'un et l'autre nettement devant les écologistes.
Et ces tendances seront bien sûr à confirmer le soir du 9 juin, dernier jour de vote pour les européennes. Pour suivre l'actualité autour de ce scrutin, rendez-vous sur l'onglet Européenne 2024 sur le site leséchos.fr. Et pour vous abonner, c'est très simple, il suffit de vous rendre sur la page abonnement.leséchos.fr/lastory ou de cliquer sur le lien dans la description du podcast. Merci à Adrien Valla, Marie Bellan et Vincent Collen de la rédaction des Échos. Merci à Willy Gann à la réalisation, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Et je vous dis à demain pour un nouvel épisode du podcast des Échos.
Entendu, à demain.
À demain, monsieur Leblanc!
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.